En effet, l'approche psychodynamique est remboursée par l'assurance maladie, alors que l'approche cognitive ou comportementale ne l'est pas. Est-ce juste? Non. Le parent trouve-t-il juste de devoir payer de sa poche une thérapie qui fonctionne avec son enfant ou pour laquelle il a plus de sensibilité? Non. Doit-il travailler plus, s'endetter, s'appauvrir? Partir dans une recherche de fonds privés, publics, est-ce que cela existe? Cela implique encore plus de travail. La charge devient lourde. Juste parce qu'il choisit une autre approche internationalement reconnue et qu'il le satisfait. Et est-ce que ces recherches, donc l'existence d'autres approches, cette alternative, se font dans toutes les familles? Est-ce que toutes les familles sont aptes à se poser toutes ces questions, à faire toutes ces recherches? Non. Il y a des familles qui le découvrent par hasard lors d'une conversation, pendant une réunion de parents, par exemple. Est-ce juste socialement de ne pas tenir informé tout parent, quel que soit son niveau social, des différentes prises en charge qui existent? Non. Le rôle de l'État est aussi là. Au sentiment de méfiance s'ajoute le sentiment d'injustice. Est-ce que ce sont les personnes à haut revenu qui peuvent offrir des thérapies intensives à leurs enfants? Oui, car on sait que la fréquence du traitement ou de la thérapie est importante, quelle que soit l'approche. La méfiance augmente encore. Cela n'est pas un système transparent. C'est notre sentiment. Pourtant, tout le monde aurait intérêt à dire l'existence des différentes approches sans forcément changer d'approche. Pourquoi ? Parce que du temps serait gagné sur la prise en charge des enfants par rapport à la précocité du traitement. Parce que des collaborations dans un climat de confiance et de transparence seraient beaucoup plus efficaces, parce que cela serait plus juste et parce que l'alternative existe dans le privé, mais est injuste. Pour les parents qui ne disent mot, consent, mais pour les parents qui ne disent mot, ment. Les parents donc souhaitent un diagnostic clair, énoncé, expliqué, écrit. C'est également la raison pour laquelle l'association Autisme Genève a créé, en collaboration avec l'OMP et donc le DIP, le Centre de consultation spécialisé en autisme, qui est un centre de diagnostic. Alors, concernant le diagnostic et la prise en charge, voilà, le diagnostic est enfin là. Le parent se méfie, mais il doit faire quelque chose pour son enfant. Il est donc dépendant du système et doit trouver une prise en charge, quelle qu'elle soit. Il faut cependant préciser qu'à ce moment précis, le parent doit encaisser le diagnostic. Il n'existe pas de structure de soutien aux parents d'enfants avec autisme officiel à Genève pour savoir quoi faire dans une telle situation. Le parent va donc soit baisser les bras, soit se prendre en main, tout seul, et consulter Internet, chercher une association de soutien, etc. Ce qui implique une charge de travail supplémentaire, en plus du handicap de leur enfant. Je dois avouer que l'association Autisme Genève fait un travail gigantesque dans le soutien aux parents. Voilà. Jusqu'à quand sera-t-il encore faisable? Le parent est là avec ses 1000 questions. Que dois-je faire maintenant? Que va-t-il se passer? Est-ce que mon enfant va pouvoir progresser, évoluer, s'épanouir, se développer, être autonome un jour? Et l'école? Comment en parler aux enseignants? Faut-il le leur dire? Oui, bien sûr. Mais vont-ils comprendre? Sont-ils formés? Vont-ils rejeter mon enfant? Vont-ils l'accepter? S'il ne peut pas continuer l'école, où dois-je le mettre? Dans une institution publique? Laquelle? Ou dans une école privée? Y a-t-il une différence? Non. La seule différence que je connaisse par le biais de témoignages de parents est le coaching. Dans certaines écoles privées, des enfants avec autisme sont acceptés avec un coach, à savoir une personne formée et spécialisée en autisme, qui l'accompagne dans son cursus scolaire afin de le soutenir lors des difficultés rencontrées. C'est comme une chaise roulante pour une personne avec un handicap physique. Si mon enfant va dans une institution, vont-ils l'intégrer un jour? Comment? Oui. Vont-ils l'intégrer un jour? Oui. Comment? Y a-t-il une convention écrite avec des critères précis, ainsi que des critères d'évaluation pour son intégration? Comment vais-je organiser mon emploi du temps à présent? Dois-je arrêter de travailler? Et comment la fratrie va réagir? Et mon conjoint? Dois-je déménager, changer de canton où il existe d'autres solutions, de pays? Et puis où puis-je trouver toutes ces informations? Je pourrais continuer encore longtemps avec toutes ces questions, parce que je pense qu'elles sont infinies. Mais la bonne question serait plutôt... Que dois-je faire? Que dois-je choisir? Y a-t-il un choix? Y a-t-il une alternative? Pour l'instant, le seul choix est d'aller avec son enfant chez un pédopsychiatre qui fera son travail comme il l'a appris et qui tentera avec conviction, bien sûr, d'améliorer la relation entre la mère et l'enfant et essaiera de parler à l'enfant ou au moins d'entrer en relation avec lui. Cette prise en charge est remboursée par les assurances maladie. Mais imaginez un parent qui emmène son enfant régulièrement chez un pédopsychiatre et qui souhaite changer de prise en charge, tout simplement parce qu'il ressent plus d'affinité avec une autre approche. Que doit-il faire? Les personnes qui n'adhèrent pas aux psychodynamiques aimeraient avoir des évaluations spécifiques type PEP3 et donc un PEI, projet éducatif individualisé, s'appuyant sur ce PEP3. Ceci en collaboration avec les parents, avec des objectifs qui soient validés ou non. Et dès lors, il faudrait se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint cet objectif? Se remettre en question, faire des réévaluations régulières. Si un parent veut choisir l'orientation de son enfant à Genève et qu'il ne veut pas l'orientation psychodynamique, quelle alternative? Rien. Et c'est l'association qui remédie à cela. Elle comble modestement le manque. Un enfant sur 110, selon les statistiques, est touché par l'autisme. On voudrait une vraie alternative, que l'État finance l'alternative, c'est-à-dire qu'il redistribue ses forces et fasse une meilleure allocation des ressources humaines. Juste une meilleure distribution. On ne demande pas des sous à l'État. Maintenant, je vais vous parler du suivi de la collaboration entre parents et institutions. Ça va reprendre un petit peu ce qui a été dit juste avant. Une fois que l'enfant est dans une institution, que se passe-t-il? Tout d'abord, il faut préciser que le parent a beaucoup d'attentes. Pourquoi? Parce que souvent, on lui a dit et répété qu'il trouvera des réponses à ses questions, qu'il trouvera des personnes formées en autisme, qu'il y aura une collaboration étroite entre parents, thérapeutes, enseignants spécialisés et éducateurs, mais aussi entre les institutions et les différents intervenants extérieurs de votre enfant, de son enfant. Qu'il y aura des réunions de parents, des rencontres, des réunions réseau et que la communication sera presque quotidienne et transparente. Qu'il y aura un projet écrit avec des objectifs pour son enfant et surtout que son enfant s'y sentira bien. Ce qui ressort à ce niveau-là est essentiellement un besoin et une nécessité de communication, d'une collaboration étroite entre le parent et l'institution, de transparence et surtout d'information. Souvent, en début d'année, il y a des promesses, selon des témoignages de parents. Le programme sera donné, il y aura un cahier de liaison, des réunions réseau, des rencontres, etc. Mais cela ne suit pas toujours, selon une majorité de parents qui viennent, en tout cas, à l'association. Cela existe, heureusement, dans certaines institutions de l'OMP, mais elles sont encore trop peu nombreuses. Ces parents-là ne comprennent pas pourquoi cela ne se passe pas comme on le leur a dit. Ils aimeraient savoir ce que fait leur enfant dans l'institution, son programme, les outils qu'ils utilisent. Suivent-ils un programme scolaire pour les enfants avec autisme qui n'ont pas de déficience intellectuelle ou des enfants avec juste certains retards ou même des enfants qui ont tout simplement la capacité d'apprendre à lire ou à compter? Y a-t-il un système de remédiation lorsque l'enfant a des problèmes de comportement? Quels sont les moyens utilisés? Y a-t-il un système d'évaluation fonctionnelle? En clair, quelle est la prise en charge? Cependant, les parents ne reçoivent pas toujours ces informations. Parfois, ils les reçoivent juste comme ça, sans se rencontrer ou sans pouvoir participer à un véritable échange. Il faudrait que le parent se sente acteur et soit complètement partie prenante du projet de l'enfant et de l'institution. Tel n'est pas encore toujours le cas. Il faudrait aussi que, lorsqu'il y a des grosses difficultés rencontrées par les professionnels, que l'information soit transmise directement aux parents, qu'il y ait des rapports trimestriels avec des réévaluations du PEI. Les parents ont parfois seulement des résumés de la synthèse et, dans certains cas, ne peuvent même pas participer aux réunions. Ils attendent dehors. Il faudrait aussi un modèle de partenariat. Les parents devraient pouvoir recevoir un programme, scolaire ou non, avec le nom de l'enseignant, référent, écrit, noir sur blanc, ou alors une convention. Des fois, il y a des conventions, oui, mais par contre, ça ne suit pas toujours tout au long de l'année. Il faudrait peut-être un modèle de partenariat, un contrat à signer pour organiser justement toutes ces réunions réseau. Qui va coordonner le réseau? Quel responsable dans l'institution? Est-ce que c'est le parent qui doit le coordonner ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ça? Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, je vais rentrer dans la conclusion, le parcours du parent est complexe et lourd. Au nom d'une majorité de parents que j'ai rencontrés, je pense qu'il est important aujourd'hui, en 2011, de dire avec le mot autisme le diagnostic, de l'écrire et de faire participer les parents durant ces échanges. Il est important de le dire le plus tôt possible et de l'expliquer aux parents, et d'expliquer aux parents l'alternative qui existe, à savoir le choix de l'approche qu'ils souhaitent avoir pour la prise en charge de leur enfant, psychodynamique ou cognitivo-comportementaliste, comportemental. Puis une fois le diagnostic clairement énoncé pour leur enfant, canner, tête non spécifiée, Asperger, et l'alternative des approches, les soutenir dans leur démarche complexe, administrative, financière, humaine, avec un centre de soutien aux parents. Ensuite, impliquer ces parents qui ne demandent que cela afin de mieux aider leur enfant, car c'est eux qui le connaissent le mieux. Les impliquer dans la rédaction du PEI, dans les réunions, dans les réseaux, et prendre en compte leur avis afin d'élaborer ensemble un projet évolutif pour leur enfant. Avec des évaluations régulières en fonction de l'évolution et des remises en question nécessaires au bon développement de leur enfant. Il ne faut pas oublier la formation de tous les partenaires, médecins, psychologues, professionnels, éducateurs, et garder en mémoire qu'aujourd'hui les parents se forment aussi pour le bien-être de leur enfant, mais aussi parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, pas d'alternative. Les parents font partie du réseau de l'enfant, ils sont sur le terrain tous les jours. Les parents demandent donc, pour conclure, de l'information, de la collaboration, de la transparence, de l'évaluation, de la formation, mais surtout, au nom de tous les parents, nous demandons surtout à être respectés humainement et que la confiance reprenne le dessus avec l'ouverture actuelle de certaines institutions qui s'ouvrent de plus en plus, même si ce n'est pas facile. Il faut parler, communiquer et surtout essayer de se comprendre, car n'oublions pas que derrière ces parents, il y a des enfants, des adolescents qui grandissent et qui deviendront de futurs adultes. Ces adultes, éduqués ou non, quel coût auront-ils pour la société si la société ne met pas tout en place pour les rendre le plus autonomes possible? Merci.
Je pense que tout le monde a pu se rendre compte que parler au nom des parents n'est pas chose aisée. Je remercie beaucoup Marjorie de Chastenay d'avoir pris ce rôle. Ce n'était pas évident. Parler en face d'autres parents, parler en face de tous les professionnels que parfois on rencontre sur notre chemin. Notre parcours de parents n'est pas simple. Pour d'autres parents, c'est un peu plus simple, mais la majorité des parents que nous rencontrons nous racontent leurs difficultés. Je pense que Marjorie, aujourd'hui, a essayé de traduire en mots toutes ces difficultés qui sont les nôtres, à nous faire entendre, à nous faire comprendre. Et le débat qui va suivre maintenant, je l'entends comme un échange, comme la possibilité pour tout le monde, parents et professionnels, de poser des questions, précisément d'une part, comme je le disais dans ma présentation au début, pour essayer de mieux comprendre quelle est la position théorique des personnes responsables d'organismes publics à Genève. Et par la même occasion, puisque la théorie détermine une prise en charge, quelle est la prise en charge qu'ils proposent concrètement à nos enfants? Je pense que, encore une fois, les questions sont les bienvenues, elles doivent rester formelles et sur le ton de la courtoisie qui caractérise depuis le début notre association. Alors je laisse M. Christophe Ingard mener les débats et je vous souhaite à tous vraiment de poser les questions qui sont les vôtres.